Elle, gaie comme un pinson, se mettait à son clavecin et chantait. Mais alors Prévert disait autre chose, il disait que c'était complètement faux de croire que le pinson était gai. Il est seulement gai quand il est gai et triste quand il est triste. Il peut même être ni gai ni triste, disait Prévert.
Voilà, et on l'entend partout, ce pinson du nord au sud.
Bah oui, il fréquente joliment nos jardins.
Merci Alain Bougrain-Dubourg.
Bonsoir.
On refait la planète sur RTL.
RTL, il est 19h.
RTL dimanche soir avec Vincent Derosier.
Et le journal de 19h, c'est avec vous, Pierre Collat, bonsoir.
Bonsoir.
Et à la une ce soir, une valise oubliée, Gare Saint-Lazare qui a créé une belle frayeur.
C'est le contenu du bagage qui a alerté les enquêteurs. Dans ce journal également, de nouveaux trains pour faire face aux retards qui seront livrés en retard. Les usagers du Paris-Clermont vont devoir être très très patients. Les premières victimes économiques de la sécheresse en Espagne, une entreprise viticole licencie 80% de ses salariés. Et puis du sport ce dimanche, 31e journée de Ligue 1 avec la fin de la rencontre entre Rennes et Brest, un match complètement fou et un but dans les arrêts de jeu, Philippe Audouin.
Exactement Pierre, et le but de la qualification européenne pour Brest qui est en train de s'imposer à Rennes 5-4, wow. Un scénario de fou à la 6e minute du temps additionnel, c'est l'ancien Rennais, le défenseur de Brest, Brassier, qui a redonné l'avantage aux Brestois, mais ce n'est pas encore terminé, il reste une poignée de secondes, coup de sifflet final, à l'instant c'est officiel, Brest jouera la Coupe d'Europe la saison prochaine, et victoire finale dans un match de fou, 5-4 à Rennes.
Merci Philippe, et puis le début d'une rencontre à suspense, Lyon-Monaco, Raphaël Vantard, le coup d'envoi vient d'être donné.
Alors il va être donné dans quelques instants parce qu'il y a eu des fumigènes côté lyonnais autorisés, et Lyon peut permettre dans ce match à Paris de décrocher son 12e titre de champion de France de football. Pour cela, il faut que les Gones empêchent Monaco de l'emporter ce soir, et ils en ont intérêt les Lyonnais s'ils veulent eux continuer de croire en une place européenne. Avec la défaite de Rennes, les Lyonnais peuvent prendre ce soir la 7e place du classement.
Merci Raphaël, on vous souhaite les mêmes émotions qu'à Rennes.
Et dans 15 minutes, Isabelle Langer, c'est vous qui prenez le relais, on refait le sport avec un beau programme du coup.
Oui, deux invités premium, Alizé Cornet, la joueuse de tennis a annoncé hier qu'elle mettra un terme à sa carrière après Roland-Garros. Elle nous expliquera pourquoi. Et Lionel Froissart, journaliste spécialiste de F1, pour son livre « L'icône immolée » sur Ayrton Senna, 30 ans après la mort du pilote brésilien.
Merci Isabelle, rendez-vous à 19h15.
RTL dimanche soir.
Après une grosse frayeur, Gare Saint-Lazare, un homme mis en examen et écroué.
Il avait abandonné volontairement une valise dans les couloirs, provoquant l'intervention des démineurs. C'était en mars, alors des bagages oubliés. Ça arrive souvent dans les gares. Bonsoir Margot Munoz.
Bonsoir.
Mais ce qui a retenu l'attention des enquêteurs cette fois-ci, c'est le contenu de la valise.
Oui, ils pensaient sûrement trouver des caleçons et des chaussures comme dans toute valise classique. Alors forcément, ils ont été très surpris quand ils ont découvert à l'intérieur des couteaux et des documents manuscrits qui font l'apologie de la cause palestinienne, mais aussi plusieurs téléphones qui contiennent tous des chants islamiques guerriers et des menaces d'attentats. Grâce à la vidéosurveillance de la gare, un suspect est identifié. Il s'agit d'un homme de 36 ans, de nationalité algérienne, proche d'islamistes radicaux. Il est interpellé début avril et placé en garde à vue. Il nie avoir déposé la valise dans la gare. Le 12 avril, il est finalement mis en examen et déplacé en détention provisoire pour association de malfaiteurs et menace de commettre un crime. Car pour le moment, il ne s'agit pas d'une action terroriste déjouée. La justice antiterroriste ne s'est donc pas saisie du dossier.
Le récit de Margot Munoz pour RTL. Châteauroux, sous le choc, la ville frappée par une nouvelle affaire d'ultra-violence entre mineurs. Un adolescent de 15 ans a été tué hier après-midi, frappé à coups de couteau au thorax et au dos. Il n'a pas survécu à ses blessures. Le suspect interpellé est un mineur. Il avait déjà été mêlé à une rixe la semaine dernière et condamné en comparution immédiate.
Véronique Sanson hospitalisée cette nuit à cause d'une pneumonie.
Une information de notre spécialiste musique Steven Bellery. Elle reporte son concert prévu au Zénith de Nantes ce soir. Nouvelle date prévue le jeudi 30 mai, les billets restent valables. Pas d'inquiétude particulière. Elle donne rendez-vous à son public au Grand Rex en juin et maintient ses dates dans plusieurs festivals cet été.
19h04 sur RTL, Bruno Le Maire s'exprime pour la première fois depuis le maintien de la note française.
C'était vendredi soir, les agences Moody's et Fitch ont maintenu leurs notes, respectivement AA2 et AA- pour être précis. Et ce, malgré la dégradation des finances publiques. Mais le ministre de l'économie voit le verre à moitié plein.
cette décision de deux agences, Fitch et Moody's, qui suit la décision d'une autre agence plus modeste, BRDS, c'est un signal clair de la crédibilité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques et un signal clair de la solidité de l'économie française.
Bruno Le Maire, tout à l'heure, chez nos confrères de LCI.
Éric Dupond-Moretti, un autre ministre, annonce ce dimanche la création d'un nouveau parquet.
Dans le but de lutter contre la criminalité organisée, c'est dans les colonnes de la Tribune dimanche, ça donne un nouvel acronyme, il s'appellera le PNACO et sera accompagné de la création d'un nouveau statut de repenti. Mathilde Panot dénonce une tentative d'intimidation. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale était l'invitée du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première tout à l'heure. Elle est revenue pour la première fois sur sa convocation par la police pour apologie du terrorisme. Au moins 390 signalements auprès du pôle national de lutte contre la haine en ligne depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas sur Israël. Mathilde Panot sera entendue dans deux jours.
Allez, une pause et dans un instant, du retard et encore du retard. Les passagers du Clermont-Paris ne sont pas prêts de voir leur train arriver à l'heure. À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Attention, moi je ne dis pas qu'il faut choisir absolument Rénovale.
Bien sûr, monsieur Génial.
Non, je dis juste qu'il y a des personnes dont je fais partie qui préfèrent faire confiance à des gens compétents, à l'écoute, qui feront un travail irréprochable avec des matériaux de qualité. C'est tout ce que je dis.
En ce moment, chez Rénovale, la TVA est offerte. Conditions sur Rénovale.com. Ma pergola, ma véranda, c'est Rénovale.
Point final.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle dans un instant avec Fanny Richard de l'assurance maladie.
Pour ce week-end en amoureux à Marseille, elle vous sort le grand jeu. Sortie en bateau, coucher du soleil en bord de mer, dîner aux chandelles dans le resto du coin, il vous dit
« Merci chérie, c'est trop !»
Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Maxime, le directeur de l'hôtel Kyria de Marseille, qui vous a préparé ce programme aux petits oignons. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriade vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriade.com.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Ce soir, dès 21h, sur M6, Service public, santé, taxes, les régions sont-elles sacrifiées ? Dans Capital. Sur W9, place à l'action au cœur de la prison d'Alcatraz, dans Rock, avec Nicolas Cage et Sean Connery. Sur Sister, laissez-vous emporter par le récit touchant de l'enfance de Marcel Pagnol, dans La gloire de mon père. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6.
RTL dimanche soir avec Vincent Derosier.
19h07, la galère va encore continuer longtemps sur la ligne Clermont-Paris car les nouvelles rames de train promises vont avoir du retard.
En janvier, la panne d'une locomotive sur le Paris-Clermont avait bloqué 700 voyageurs toute une nuit de grand froid. Suite à cela, le gouvernement avait promis un renouvellement du matériel, mais le constructeur a annoncé ce week-end que la livraison va prendre du retard. Les livraisons qui vont s'échelonner jusqu'en 2027. Bref, les usagers ne sont pas prêts d'arriver à l'heure. Écoutez Stéphanie Picard, elle est porte-parole des usagers du train Clermont-Paris.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc début 2027, c'est la première rame qui va être mise en circulation. S'il y a encore un an et demi pour dérouler toute la livraison, partie jusqu'à 2028. C'est quand même une déception. Il y a un peu de colère, évidemment, mais on en subit tellement sur cette ligne et depuis tellement d'années. Les gens disaient la ligne maudite, jusque-là, bon, c'était juste la ligne défaillante. Là, quand même, des événements comme ça, à répétition, là on devient un peu maudit, hein. Le sort s'acharne. Pour l'instant, c'est un an et demi de retard, mais allez savoir ce qui va se passer. Peut-être qu'ils n'osent pas nous dire que ça va être deux ans, j'en sais rien. Ou puis, il peut encore se passer autre chose. C'est un matériel nouveau. Ce sont des nouvelles technologies, je dirais. Donc, en fait, tout doit être testé. Donc, c'est quand même inquiétant.
Stéphanie Picard du collectif du train Clermont-Paris, joint par Célestin Bougère pour RTL. Ces retards de livraison concernent également la ligne POLT. C'est le petit nom du Paris-Orléans-Limoges-Toulouse.
Ah oui, je me demandais aussi, POLT. Et puis sur l'A13, Pierre, là aussi, il va falloir de la patience.
L'autoroute ne rouvrira pas cette semaine entre Vaucresson et Paris, en tout cas pas avant vendredi. D'habitude, 100 000 véhicules roulent sur cette portion tous les jours. En ce moment, c'est si calme qu'une petite famille de renards a été observée sur le bitume se baladant tranquillement sur la route.
Le sport avec la 31e journée de Ligue 1.
On vous le disait en titre, victoire de Brest face à Rennes, 5-4 après un match complètement fou. Suspense jusque dans les arrêts de jeu. Et puis Lyon joue actuellement contre Monaco, Raphaël Vantard. Vous suivez le match pour nous ?
Et il aura fallu 24 secondes au Monégasque pour ouvrir le score ici au Groupama Stadium grâce à Wissam Ben Yedder qui a surpris totalement les Lyonnais dans ce début de rencontre et Monaco qui mène pour l'instant donc 1-0 après 6 minutes de jeu. Les Monégasques qui empêchent donc pour le moment le PSG d'être sacré champion ce soir. 1-0 donc pour Monaco ici sur la pelouse du Groupama Stadium après 6 minutes de jeu.
Ah oui, 24 secondes, vous allez peut-être vous aussi avoir droit à votre 5-4, Raphaël Vantard. Merci.
On espère.
Marseille face à Lens, c'est l'affiche du soir à suivre tout à l'heure dans RTL Foot autour d'Éric Silvestro, coup d'envoi 21h. Et en Ligue des Champions féminines, c'est l'OL qui remporte le match retour des demi-finales face au PSG 2-1. L'Olympique Lyonnais qui retrouvera donc Barcelone en finale.
L'actualité internationale, peut-être un espoir de trêve à Gaza.
On apprend aujourd'hui qu'une délégation du Hamas va se rendre au Caire demain pour rejoindre les discussions sur un éventuel cessez-le-feu en échange d'otages, alors que le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan. Selon lui, 34 454 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.
En Espagne, Pierre, la sécheresse fait ses premières victimes économiques.
Alors que côté français, le gouvernement a annoncé hier des plans d'action pour l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, trois départements qui souffrent particulièrement du manque d'eau. Côté espagnol, le grand producteur de vin catalan Freixenet a annoncé un plan de licenciement temporaire de 80% de ses employés. La Catalogne qui fait face depuis 3 ans à la pire sécheresse jamais enregistrée et la situation est devenue critique pour les vignobles, Aurélie Chameroy.
Oui, coup dur hein, pour le monde viticole espagnol. Le géant catalan Freixenet, plus gros producteur de cava, le champagne local, annonce devoir se séparer temporairement de 615 employés, soit 80% de son personnel. Dans un communiqué, le groupe explique lutter depuis 2021 contre une sécheresse qui n'a cessé d'empirer. Les vignobles sont désormais trop affectés pour la production. L'entreprise, vieille de 163 ans, évoque ainsi un cas de force majeure et une crise la privant de matières premières. La sécheresse provoque en effet une pénurie de raisins. Dans la région, les dernières vendanges n'ont permis d'obtenir que la moitié des récoltes habituelles. Une situation intenable pour les producteurs et notamment Freixenet, qui a déjà annoncé ne plus pouvoir faire face à la demande mondiale de cava.
Les explications d'Aurélie Chameroy, correspondante RTL en Espagne. Et puis à Venise, en Italie, on connaît les problèmes de surtourisme. Une taxe de 5 euros est mise en place pour les touristes à la journée. Et ce dimanche, une mise en garde que l'on attendait moins, celle du pape, qui lors d'une messe place Saint-Marc a prévenu. Sans le soin et la protection de ce cadre naturel, Venise pourrait cesser d'exister. Une visite qui a aussi permis de constater que le pape François est plutôt en forme. C'était son premier déplacement hors de Rome depuis 7 mois. Un mot de météo avec vous Valérie Quintin. Un peu plus de soleil demain.
Oui, c'est vrai que le soleil va être un peu plus généreux quand même demain entre le nord, l'Île-de-France, les régions centrales, sur toute la façade ouest. Les éclaircies seront franchement assez belles. A contrario, il va rester quelques pluies, parfois soutenues entre le Roussillon et le sud du massif central. Un ciel très nuageux qui va remonter jusqu'au port de la Lorraine, mais avec là des averses un petit peu plus faibles. Et puis le soleil pourrait tenir de l'Alsace jusqu'à la Corse, sauf qu'il y aura un voile nuageux assez dense, parsemé de sable, puisqu'on a à nouveau une remontée de sable du Sahara prévue pour demain sur le flanc est. Côté Mercure, ça change pas beaucoup, ça baisse quand même un peu demain matin, fourchette de 3 à 15 degrés. Dans l'après-midi, comptez 12 à 25 degrés de Rodez à Ajaccio, 16 degrés à Quimper, 18 à Belfort, 19 degrés pour Paris et Lille et 21 à Marseille.
Merci Valérie, merci Pierre Collat, c'était le journal de 19h. Dans un instant, vous prenez les commandes, Isabelle Langer, pour On refait le sport.
Oui, on va parler beaucoup de football, mais on va aussi parler de la retraite d'Alizée Cornet, elle sera en ligne avec nous, et puis Lionel Froissart vient d'arriver dans le studio avec nous pour parler de son livre « L'icône immolée, 30 ans après la mort d'Ayrton Senna ». À tout de suite.
RTL dimanche soir.
Et maintenant, parlons horlogerie française avec MGH, Manufacture Générale Horlogère.
Bonjour Thierry Bertin. Alors, vous êtes responsable du réseau de la grande distribution chez MGH, qui collabore au plus près des enseignes de la grande distribution. Mais alors, qu'est-ce qui différencie MGH des autres groupes horlogers dans sa relation avec la grande distribution ?
En fait, le groupe MGH a su construire depuis plus de 30 ans une expertise horlogère en montres, réveils, pendules, bracelets montres, piles, ainsi qu'une offre de bijoux. Mais à la différence de nos concurrents, nous sommes présents sur toute la France. C'est plutôt un atout majeur d'ailleurs, parce que grâce à cette couverture nationale, on assure le référencement de nos produits dans toutes les enseignes. Et nous proposons à nos clients des nouveautés en fonction des différentes saisonnalités.
Et quelle est notre valeur ajoutée de votre force de vente intégrée ?
Eh bien, c'est justement la présence sur le terrain de nos commerciaux qui leur permet d'être très agiles et réactifs et ainsi de proposer à nos clients les produits dont ils ont besoin au bon moment.
Merci et à la semaine prochaine pour parler horlogerie française avec MGH. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur www.groupemgh.com.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Isabelle Langer sur RTL.
On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque dimanche, le service des sports vous accompagne jusqu'à 23h. Dans 45 minutes, je passerai le relais à Eric Silvestro pour RTL Foot. D'ici là, nous accueillerons dans quelques minutes une joueuse de tennis que nous apprécions beaucoup à RTL. Hier, Alizé Cornet a en effet annoncé qu'elle raccrochera sa raquette après Roland-Garros. Elle nous expliquera pourquoi. La flamme olympique est partie hier d'Athènes, à bord du Belém. Nous retrouverons sur le fameux trois-mâts Steven, l'un des 16 jeunes éclaireurs qui fait le voyage jusqu'à Marseille, où le bateau arrivera le 8 mai prochain. Et puis mercredi, cela fera 30 ans qu'Ayrton Senna nous a quittés. Dans la seconde partie de l'émission, retour sur la disparition du pilote brésilien avec notre invité. Bonsoir Lionel Froissart.
Bonsoir.
Journaliste spécialisé dans les sports automobiles, proche d'Ayrton Senna. Lionel, vous publiez L'icône immolée, un roman dans lequel vous racontez ce week-end maudit à Imola, un récit à la première personne, celle d'Ayrton Senna. C'est très fort, vous nous expliquerez tout dans la seconde partie de l'émission. Pour m'accompagner ce soir, mon fidèle acolyte, bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
La 31e journée du championnat de Ligue 1 et un choc pour l'Europe se tient en ce moment au Parc OL.
Lyon affronte Monaco sous vos yeux, Raphaël Vontard, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Si les joueurs de la Principauté ne s'imposent pas, le PSG sera champion.
Et bien c'est mal parti, puisqu'il aura fallu 24 secondes aux joueurs de la Principauté pour ouvrir le score ici au Groupama Stadium par l'intermédiaire de Wissam Ben Yedder. Et ça s'est fait assez rapidement. Donc. Et depuis, et ben les joueurs de Monaco ont, semble-t-il, la mainmise totale sur ce match en termes de possession, en termes d'occasion, même si les Lyonnais essayent un petit peu depuis quelques secondes de rebondir. Mais pour l'instant, c'est Monaco qui mène ici 1-0 et donc qui empêche le PSG d'être sacré champion ce soir.
Et si les joueurs de la Principauté ne s'imposent pas, Raphaël, le PSG sera champion.
Exactement, ça sera le cas, il le faut. Et pour le moment, même si on va suivre cette offensive lyonnaise qui va être avortée, effectivement. Mais pour l'instant, je vous le dis, hein, la domination est vraiment monégasque. Et 24 secondes pour ouvrir. On espère un match aussi beau qu'à Rennes, entre Brest et Rennes. Ouais. Mais pour le moment, c'est pas le cas, puisqu'il y a 15-0 et que les monégasques ont la mainmise totale sur ce match et veulent empêcher, en tout cas ce soir, Paris d'être sacré champion.
Merci Raphaël, vous restez avec nous. Hein. Vous êtes en fil rouge dans l'émission et vous intervenez dès que vous le souhaitez. Brest, Quentin, est revenu de l'enfer et se rapproche de la Ligue des Champions au terme d'un scénario complètement dingue.
Oui, mené 2-0 au bout de 9 minutes après le doublé de Kalimuendo, Brest a renversé la table et marqué 4 buts avec Steve Mounier, Warmed Omari contre son camp, Martin Satriano et Madi Camara. Arthur Théâtre a redonné l'espoir au Rennais, Martin Terrier a égalisé à la 79e. La fin de match fut magnifique, Brest a tenu et Brest a même repris l'avantage à la 97e minute sur une tête plongeante de Lilian Brassier. Brest reprend sa troisième place à Lille.
Et on y reviendra longuement hein, dans RTL Foot à partir de 20h.
Un match, c'est extraordinaire, 5-4, ça n'arrive pas tous les jours. Les nordistes, justement, qui reprennent leur marche en avant. Victoire 2-1 de Lille sur la pelouse de Metz. Succès difficile, car les Lillois étaient menés 1-0 après le pénalty de Georges Mikotadze. Mais les Dogs ont renversé le match avec des buts d'Ismaili et Yazici en fin de première période. Toujours dans la course à l'Europe, Nice a fait le travail. Victoire 3-1 des Aiglons à Strasbourg grâce à Evan Guessant. Dante Kanté et Morgan Sanson. Nice revient à 4 points de Lille et garde espoir dans la course à la Ligue des Champions.
Et Clermont peut encore croire au maintien.
Oui, victoire 4 buts à 1 des Auvergnats face à Reims. Les deux doublés de Mohamed Cham sur pénalty à Rachani permettent à Clermont de revenir à 4 points de Metz, actuel barragiste. Pour Lorient, ça se complique encore après la défaite de buts à 1 à domicile contre Toulouse. Julien Ponceau avait pourtant ouvert le score, mais Dalinga et Sissoko ont donné 3 points à Toulouse qui se maintient par la même occasion. 5e revers consécutif pour les Merlus qui restent englués à la 17e place. Ils sont avant-derniers avec 3 points de retard sur le barragiste Messin.
Et à 21h, l'OM reçoit le Racing Club de Lens au Stade Vélodrome. Dernière chance pour les Marseillais d'accrocher le wagon européen. Une rencontre à suivre à partir de 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Johan Rioux. Toujours en football, Quentin, il y avait également la demi-finale retour de la Ligue des Champions féminines ce dimanche.
Oui, le PSG affrontait Lyon au Parc des Princes. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonsoir Quentin, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Et ce sont les Lyonnaises qui se sont imposées et qualifiées pour leur 10e finale de Ligue des Champions.
Exactement, succès 2 buts à 1. Elles s'étaient imposées 3 buts à 2 dans un match complètement fou aussi lors de cette demi-finale aller. Mais effectivement, ce sera même la 11e finale de Ligue des Champions pour Wendy Renard, la capitaine de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, qui n'était pas forcément au courant aux zones mixtes. Écoutez-la.
Ah, je compte pas, vous allez compter pour moi.
Si, je crois que c'est ça.
C'est ça ? Ouais. Bah, ça démontre une certaine régularité, tout simplement. Voilà, on a toujours soif de trophées. Après, je l'ai dit, les titres sont pas faciles à aller chercher. Les gens pensent que c'est facile, mais on a vu encore sous cette double confrontation. Mais nous, on a fait preuve, encore une fois, aujourd'hui, de rigueur. Très contente pour le collectif. Et on a fait preuve de courage aujourd'hui, donc c'est bien.
Elles affronteront le FC Barcelone. Les Lyonnaises, c'est un peu le nouveau classique du football féminin européen. Ce sera le 25 mai et ce sera à Bilbao. Du côté du PSG, beaucoup de déceptions, mais quand même quelque chose de positif. C'est ce monde au Parc des Princes. Il y avait 30 000 personnes et Grace Gueiro, la capitaine parisienne, n'y a pas été insensible.
C'est ça, ça fait plaisir de voir autant de monde. Voilà, les supporters, on sait qu'ils sont toujours là, ils seront toujours là de toute manière, et ça, c'est une force aussi. Il faut qu'on continue. Mais voilà, il faut qu'on s'appuie sur ça. Je sais que c'est souvent les phrases qu'on ressort, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer, et puis pour la suite, il faut que ça paye.
Voilà, Grace Gueiro, la capitaine du PSG. Pareil, il y a encore des choses à jouer. Évidemment, il y a les play-offs en championnat et cette finale de Coupe de France, évidemment, qui permettra peut-être de sauver cette saison.
Merci beaucoup, Baptiste Durieux. À bientôt sur l'antenne
avec
de RTL.
Plaisir.
On refait le sport.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Le prochain Roland-Garros sera forcément particulier. Alors ce sera le dernier de Raphaël Nadal, en espérant que l'Espagnol soit apte. Ce sera certainement également le dernier de Richard Gasquet. Et ce sera, on le sait depuis hier, l'ultime danse de notre invité. Bonsoir Alizé Cornet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Alizé. Vous savez que votre annonce, elle nous a touchés avec Quentin qui fait l'émission avec moi, parce que on n'est certainement pas les seuls. Alizé, vous avez 34 ans, vous êtes actuellement 107e mondial. Pourquoi vous avez décidé de raccrocher ?
Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, j'imagine, et que pour moi, c'était l'heure. Ça fait un petit moment que j'y pense, plus ou moins sérieusement. Et c'est vrai que là, ces derniers mois, pour moi, ça devenait de plus en plus évident qu'il fallait que j'arrête à Roland-Garros, que c'était l'endroit où je voulais dire au revoir au monde du tennis. Et voilà, ces derniers mois, ils ont pas été faciles quand même à gérer émotionnellement en ayant ça en tête. Mais maintenant, je suis vraiment en paix, prête pour ce nouveau chapitre. Mais j'ai quand même un peu peur et c'est normal.
Bah, c'est normal. Raphaël Nadal vous a d'ailleurs rendu hommage hier. Il a salué votre incroyable carrière. J'imagine que ça vous a touché. Rafa, quoi.
Je m'y attendais absolument pas. Vraiment, ils m'ont fait une belle surprise lors de l'entretien. Tous mes passés, tous les noms possibles me sont passés en tête, sauf celui-là. En fait, c'était improbable pour moi de voir la tête de Rafa apparaître sur la tablette. Et j'ai été extrêmement émue, extrêmement touchée. J'en tremblais encore quand je tenais la tablette entre mes mains. Et voilà, qu'une légende pareille, qu'un immense champion, accepte de m'envoyer un message pour me féliciter. C'est vrai qu'on se connaît sans se connaître et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur, un peu trop peut-être puisque j'ai jamais osé aller lui parler vraiment, et de savoir qu'il me connaît et qu'il me félicite, j'ai vraiment une admiration illimitée pour ce joueur. Donc c'est pas évident quand je suis en face de lui, j'ai tendance à être un peu timide, ce qui est contraire à ma nature. Comme quoi.
Vous vouliez avec Rafael Nadal, vous avez tous les deux commencé très jeune et vous étiez promis à tous les deux une grande carrière que vous avez pu faire également à l'ISE.
Oui, on n'a pas vraiment
la même carrière. On va pas se mentir. Demi-finale en Australie, quart de finale en 2022, votre dernière grande performance d'ailleurs au très haut niveau, là, ce quart de finale face à Daniel Collins il y a deux ans. Vraiment, vous avez fait quand même une très belle carrière, Alizé.
Oui, mais comme l'a dit Raphaël, on se connaît depuis qu'on est gamin. En fait, on est arrivé quasiment au même moment sur le circuit. Et c'est vrai que ça crée des liens. Et puis voilà, il devait parfois suivre un peu mes matchs, comme on se suit mutuellement les uns les autres, finalement, depuis les vestiaires, à la télé. Je pense que c'est un passionné de tennis. Et voilà, il a certainement entendu parler de mon record de longévité. Et je pense que la longévité, c'est quelque chose qui lui parle, puisqu'il est aussi sur le circuit depuis plus de 20 ans. Mais je suis très fière de ma carrière. Elle aurait pu être meilleure. Elle aurait pu être bien pire, et au final, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir tout donné jusqu'au bout, et je suis restée fidèle à moi-même, donc je pense qu'il y a de quoi être fier pour ça.
On rappelle aux auditeurs, hein, 11e mondial en 2009, 6 titres, une Fed Cup avec les Bleus en Australie en 2019, ça on l'oublie pas parce que j'y étais, c'est un super moment. 25 victoires contre des top 10, donc 4 contre une numéro 1 mondiale, et puis c'est votre 20e Roland-Garros, 20e Alizé, le 69e tournoi du Grand Chelem de votre carrière d'affilée.
C'est le fameux record. Je me rends bien compte, hein, je les ai sentis passer quand même, hein, tous ces grands chelems, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, en termes d'investissement, d'engagement au quotidien. Ça veut dire 20 ans sans sortir du top 100, 20 ans sans se blesser, 20 ans d'une discipline de fer, d'un travail vraiment acharné. Donc je sais ce que ça représente, et je pense que le grand public peut-être ne s'en rend pas toujours compte. C'est comme des carrières à la Richard Gasquet, on en parle très peu, mais c'est aussi fantastique de rester aussi longtemps à un niveau aussi haut, c'est tellement d'exigences. Et voilà, et 20 Roland, je sais même pas si c'est pas un record, 20 Roland consécutifs, donc ce sera encore un petit record à mon actif, je prends, hein, de toute façon, voilà, je vais tirer ma révérence, donc tout ce qui est bon à prendre, je le prendrai.
Lionel Froissart est avec nous, journaliste à Libération notamment, spécialiste de Formule 1, mais pas que, de tennis aussi. Lionel, j'imagine qu'il y a un petit mot quand même pour Alizé.
Oui, c'est marrant parce que bon, déjà je sais à peu près comment Alizé va pouvoir se convertir, puisqu'elle a déjà écrit et peut nous raconter ça avec des mots. Non, moi, je me souviens d'un match que je regardais sur le Langlen où elle jouait à un moment, et je me souviens qu'elle était très agacée, je ne sais pas si elle va se souvenir de ce détail, elle était très agacée par un sticker, enfin quelque chose qui était cousu ou mal cousu sur son chemisier. Et ça la perturbait dans son jeu. Et on se rend compte à ce moment-là à quel point, quand on est à fond dans un sport, un petit détail peut tout changer. Je ne sais pas si elle se souvient de ce détail, mais moi, ça m'avait marqué.
Dans ma carrière, j'ai souvent été agacée par plein de choses, donc je ne me souviens peut-être pas vraiment de ce détail-là. Mais je pense qu'au contraire, évidemment, chaque détail compte quand on est sur le terrain, et on peut se laisser perturber par tout et n'importe quoi au final. Mais les vrais grands champions... ne le sont pas. Voilà, ils ont beau avoir un badge qui se décolle sur leur tenue ou n'importe quoi, ils vont pas sortir de leur match, ils vont pas montrer leur agacement. Et je pense que c'est ça qui m'a parfois un peu manqué pour être encore plus stable et voilà, encore plus régulière au très très haut niveau. C'est un peu cette gestion de cette frustration qui m'a un peu débordée parfois, surtout quand j'étais plus jeune. Mais bon, je suis quand même contente parce que j'ai bossé dessus, notamment sur ces 5 dernières années, et j'ai vu une nette évolution. Et ça aussi, c'est une fierté parce que c'est pas facile de transformer sa nature profonde. Et voilà, mon amour du tennis m'a permis de travailler là-dessus, et au final, je me suis bonifiée avec les années comme le bon vin, et voilà, c'est une victoire.
Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous, Alizé ?
Ma fraîcheur, mon enthousiasme, mon sale caractère, mais ma combativité avant tout. Je pense que c'est Alizé, c'est tout ce combo-là, c'est ne jamais rien lâcher sur un court et avoir tellement envie de gagner que parfois, je me suis laissée entraîner par ma colère, par ma rage de vaincre. Mais voilà, ça fait partie du package. Et puis en contrepartie, j'ai toujours été très ouverte avec les gens, assez généreuse dans mes interviews, dans mon contact avec les gens. Donc
bonne
je pense
cliente
que...
comme on dit nous dans le jargon.
Ouais, bonne cliente, il y a à apprendre, il y a à laisser, mais en tout cas, je suis toujours restée, comme j'ai dit tout à l'heure, fidèle à moi-même. Et voilà, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un d'entier et de combatif, et ça me suffira.
J'ai un souvenir de vous pendant la période Covid, au moment où ça reprenait le jeu, qui était justement agacé par les conditions, et ça illustrait peut-être bien votre état d'esprit et votre combativité.
Pardon, j'ai pas entendu le début de votre phrase.
Pendant le Covid, le retour au terrain, le retour à la compétition, je sais que c'était un moment particulier dans votre carrière, et vous aviez été un peu agacé.
Alors le retour après le Covid, je me souviens quand même surtout d'avoir eu beaucoup d'envie à ce moment-là, parce que quand on a été enfermé chez soi pendant 2 mois, on a quand même envie de retrouver le chemin des terrains. Ouais. Après, oui, il n'y avait pas eu d'entraînement pendant 2 mois, donc je pense que mon niveau de jeu n'était peut-être pas à la hauteur de ce que j'avais l'habitude d'avoir. Mais de toute façon, il y a eu beaucoup de moments dans ma carrière où voilà, j'ai ressenti de la frustration pour une raison ou pour une autre. Et c'est comme ça, ça m'a pas forcément aidé, mais je pense que d'un autre côté, c'est aussi ça qui m'a permis d'être forte et de le rester aussi longtemps. C'est ce refus de perdre et voilà, et ce perfectionnisme poussé à l'extrême. On se refait pas, que voulez-vous.
On a préparé quelques questions en rafale, Alizée. Votre tournoi préféré?
Oh, c'est piège, ça.
C'est ce qu'on s'est dit avec Quentin en le préparant.
Ah là là, je peux pas dire ça.
Dites-le que c'est l'Australie.
Bah, première question, vous me posez une colle là. Ça
d'accord.
Alors on enlève les grands chelems, alors c'est d'accord. Mieux. Alors je vais dire Indian Wells.
D'accord. La joueuse contre laquelle vous détestiez jouer.
Oh là là, une américaine qui s'appelait Alison Risque. Je sais même pas si les gens se souviennent d'elle. Moi, je ne gagnais jamais un set contre cette fille.
Très puissante.
Celle contre laquelle, au contraire, vous adoriez jouer. Vous saviez lire son jeu parfaitement.
Oh, je pense que ce serait un peu présomptueux de dire ça, parce que chaque jour est tellement différent et il n'y a pas une seule joueuse où je me suis dit ah, j'adore la jouer. Je me méfie, je suis comme Rafa, je me méfie de tout le monde à chaque instant. Donc,
Votre plus grand regret?
De ne pas avoir travaillé sur mes émotions et mon mental plus tôt dans ma carrière. De l'avoir commencé un peu trop tard, ce travail à mon goût.
Et ben ça, c'est un bon conseil à donner pour les jeunes joueurs.
Justement, c'est un reproche, le mental, qu'on fait beaucoup au tennis français. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet élément-là? On a l'impression que les tennismans et les femmes du tennis français ont du mal à passer le cut quand il s'agit d'aller en finale d'un grand chelem ou de gagner un grand tournoi.
Je sais pas trop si j'ai la réponse à cette question. Moi j'ai mon cheminement personnel, j'ai mon témoignage à moi qui me dit que peut-être que si j'avais commencé le travail que j'ai commencé à 29 ans avec la méditation et une meilleure connaissance de moi-même, de l'origine de mes émotions, tout ça, si j'avais commencé ce travail-là à 20 ans ou même 15 ans, j'aurais peut-être pas eu exactement la même carrière. Ça, j'en suis quasiment sûre, avec certitude. Mais pour les autres, chaque parcours est différent. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de juger, de donner des leçons. Et s'il y a quelque chose que je peux éviter de faire après ma carrière, c'est bien ça. Juger les parcours, juger les carrières et surtout dire qu'on manque de mental, parce que un joueur qui est dans les 100, déjà, c'est un monstre.
Ouais.
Voilà, c'est un monstre mentalement, c'est un monstre de résilience, de travail. 100 joueurs, hein, sur les millions de pratiquants, milliards peut-être dans le monde, je sais pas. Pour être dans les 100, déjà, on peut pas dire qu'un athlète manque de mental. Donc, je ne ferai pas cette erreur-là dans le futur.
Je continue avec quelques petites questions. Votre plus grande joie, Alizée Cornet?
Je pense que je vais choisir ma qualification pour les quarts de finale en Australie en battant Simona Halep.
Ouais, c'était bien ça. La joueuse la plus sympa du circuit?
Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que 11 Jabeur, elle a la palme de la sympathie quand même.
La Tunisienne. La plus détestable. Allez, elle ne nous entendra pas.
Oh là là, non, je ne peux pas envoyer des noms comme ça. Bon, on sait que j'ai pas vraiment d'affinité, disons, avec Victoria Azarenka. Voilà, on va dire ça.
D'accord. Les adieux à Roland-Garros, vous vous y préparez psychologiquement?
J'essaye, mais je pense que c'est très difficile d'anticiper ce qui va se passer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon tennis. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'émotions. J'espère pouvoir jouer mon ou mes matchs avec panache, avec envie. Voilà, c'est en essayant de pas trop me laisser submerger par l'enjeu de tout ça. Mais je vais essayer déjà de profiter de mes derniers tournois avant Roland, puisqu'il m'en reste quand même 3 ou 4.
Ouais.
Et de me préparer doucement à cette échéance.
Et ben on se prépare nous aussi, hein, psychologiquement pour ce Roland Garros et vos adieux. Merci beaucoup Alizée Cornet de nous avoir accordé
avec
cet entretien.
Plaisir.
À très vite. Quant à un mot, ce football.
Oui, après la folie du match entre Rennes et Brest, c'est la folie au Parc OL, Raphaël Vantard, où Lyon vient de renverser en quelques minutes le score contre Monaco.
Et oui.
Effectivement, il aura fallu 24 secondes pour prendre un but en première mi-temps. Il aura fallu 5 minutes au Gun pour retourner complètement la tendance. Égalisation de Lacazette sur un super service de Saïd Benrahma à la 23e. Et dans la foulée, presque 3 minutes suivantes, et ben c'est ce même Benrahma à la conclusion d'un centre de Clinton Mata qui permet à l'Olympique Lyonnais de virer en tête 2-1. Et surtout qui permet pour l'instant au PSG d'être sacré champion de France de Ligue 1. Pour le moment, si on en reste là, Lyon qui mène donc 2-1 ici au Groupama Stadium après une demi-heure de jeu.
Merci beaucoup Raphaël Vantard.
Le Belém vogue en Méditerranée, direction Marseille, où il est attendu le 8 mai prochain. C'est un fameux trois-mâts qui a largué les amarres du port du Pirée en Grèce avec une précieuse cargaison à bord, la flamme olympique.
Savoir qu'un jour le canal de Corinthe ouvrirait que pour un navire, le mien, le BLM, avec la flamme olympique, le parcours extraordinaire, l'équipage a l'air vraiment ultra motivé, les jeunes, je crois en eux, j'ai toute ma confiance, tout est bon.
Un moment très important dans la vie de ce projet, c'est symbolique, ça y est, la flamme prend la route de notre pays.
Et la flamme a passé sa première nuit sur le Belém à bord du fameux trois-mâts français, 16 éclaireurs qu'accompagne la fondation Belém Caisse d'Épargne. Et parmi eux, Steven Etcheverry qui est en ligne avec nous. Bonsoir Steven.
Bonsoir, bonsoir.
Alors avant que vous nous racontiez un petit peu ce que vous faites sur ce bateau, racontez-nous quand même cette première journée à bord du Belém, Steven. Ça s'est passé comment ?
Alors la nuit s'est très 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 bien passée. Très courte aussi, mais voilà, on était prêts, on avait forcément de la volonté derrière.
Et ça va, la flamme, elle est bien sous bonne garde, elle voyage tranquillement.
Bien sûr, on y fait gaffe, on y fait très attention. C'est une jolie flamme en plus, donc voilà, c'est quelque chose de vraiment, on n'y croyait pas du tout au début, mais on avait tous la détermination, voilà, même si on a des nuits courtes, même si on a eu des difficultés.
Faites dit bien attention parce que c'est la première fois de la vie de la flamme qu'elle voyage en bateau pour arriver sur le pays qui accueillera les Jeux Olympiques. D'habitude c'est l'avion, donc vraiment on compte sur vous pour en prendre soin jusqu'à Marseille. Hein.
Vous en faites pas, on y prend soin, je pense que voilà, on est tous surexcités d'avoir la flamme à bord du Belém. C'est quelque chose que chaque jour où on se lève ou tout au long de la journée, on y fait très attention, justement parce que beaucoup de personnes nous attendent aussi à Marseille. Donc voilà, c'est un honneur.
Steven, on l'entend à votre accent, vous êtes du Gers, hein, c'est ça? Vous êtes apprenti serveur dans un restaurant semi-gastronomique à Auch, vous avez 19 ans. Vous faites quoi à bord du Belém?
Tout au long de la journée, on participe aux manœuvres. Donc on apprend à lever, tirer les cordes, hisser les voiles et du coup participer même à faire la cuisine, aider les cuisiniers, faire le ménage, l'entretien du bateau, toutes tâches possibles. Et donc bien sûr le soir, on est divisé en deux groupes et on participe à la veille. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements à la barre, on veille bien sûr sur la flamme. Et après nous apprenons tout au long aussi de la journée, même nuit, les noms des voiles, les noms des cordes, les noms des bâtiments.
5 km de cordes pour hisser les trois voiles que comporte le Belém. Donc c'est quand même un bateau exceptionnel. C'est le dernier trois-mâts qui est encore en fonctionnement. Un bateau qui date, Steven, de 1896. Donc il y a le poids de l'histoire, il y a la flamme, mais il y a aussi le bateau.
C'est sûr que c'est un honneur et à la fois une fierté de remonter sur ce Belém avec cette grande histoire.
Vous êtes combien à bord, Steven ?
Nous sommes 16 jeunes éclaireurs. Et en tout, on est 48.
Et ça va l'ambiance ? Vous, ça chante un peu ?
Oui, le groupe vit très très bien. Voilà, le fait qu'on ne se connaissait pas, on a fait connaissance depuis l'aéroport, avant même d'arriver sur le Belém. Ça nous a permis de tisser les liens ensemble, tous ensemble, que ce soit avec l'équipage, les jeunes éclaireurs, ou même les journalistes. Donc le groupe vit très bien, ils sont tous très très gentils et très agréables. Et surtout, ils prennent le temps de tout nous expliquer pour faire une bonne traversée.
Merci beaucoup Steven Etcheverry. Amusez-vous bien à bord du Belém. Vous avez beaucoup de chance, hein. C'est un vrai privilège d'être à bord de ce bateau qui se dirige tranquillement vers Marseille où il arrivera le 8 mai prochain. Bonne route.
Merci beaucoup.
RTL.
En route pour les Jeux.
Et oui, la flamme arrivera le 8 mai à Marseille avant de partir sur les routes de France, mais également dans les territoires ultramarins et d'enflammer Paris, si je puis dire, le 26 juillet prochain lors de la cérémonie d'ouverture. Des Jeux que le grand public pourra vivre dans un endroit unique à Paris, le Club France. Bonsoir Nathalie Péchala.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Nathalie, vous êtes la présidente déléguée du Club France pour le Comité National Olympique et Sportif Français. Vous rappelez aux auditeurs où vous serez installée pendant les Jeux ?
Oui, on sera donc installé à la Villette, dans le Grand Parc et la Grande Halle. Donc un énorme espace pour recevoir les athlètes et le grand public, bien évidemment.
Il y a un joli programme qui attend le public hier là-bas.
Oui, ben déjà, faut savoir que c'est l'endroit où les athlètes viennent juste après avoir terminé les compétitions, médaillés ou pas. Et en tout cas, on sera tous là pour les célébrer. Et puis, il y a plein d'animations sportives pour l'ensemble des familles. Il y aura des séances de dédicaces, d'autographes. Il y aura
des animations sportives.
Exactement, sur tout l'espace extérieur préparé par l'ensemble des membres du Comité National Olympique. Et puis bien sûr, de quoi faire la fête avec des DJ résidents et des artistes qui nous font le plaisir de venir partager toute cette joie ensemble.
Nathalie Péchala, pour y accéder, il faut obligatoirement, je vais y arriver, s'inscrire, hein, c'est ça ?
Oui, pour des raisons de sécurité et également de jauge, parce que même si on peut recevoir 25 000 personnes à l'instant T, il faut qu'on puisse s'organiser. Donc effectivement, sur le site de clubfrance2024.fr, vous pouvez acheter vos billets. Donc c'est 5 euros, c'est gratuit pour les moins de 8 ans, c'est gratuit pour les personnes à mobilité réduite et à leurs accompagnants. Mais effectivement, ça doit être fait par l'application avant de se rendre ou pas, parce que même pour ceux qui n'ont pas prévu, qui sont plutôt spontanés, il y a un dispositif qui est prévu pour accueillir tout le monde, même ceux qui n'ont pas de smartphone, pour pouvoir les accompagner, évidemment.
Nathalie Péchala, le parc de la Villette, c'est le nord-est parisien pour les auditeurs qui nous écoutent.
Oui.
C'est pas l'endroit le plus connu de la capitale. Est-ce que vous pensez attirer suffisamment de monde ?
Ah ben, je l'espère bien. En fait, on avait envie d'un espace qui soit très populaire, qui soit pas loin du village olympique également, et qui nous permette d'être assez grand pour proposer beaucoup d'initiations sportives, des démonstrations, des rencontres avec les athlètes, des écrans géants pour suivre les épreuves en direct, avoir des conseils d'experts pour nous commenter tout cela, puis tous les studios médias, hein, vous êtes bien placés pour le savoir. Donc voilà, il fallait un lieu qui rassemble tous ces critères, et c'est la Villette. Voilà.
Donc il faut aller s'inscrire. Sur quoi on s'inscrit d'ailleurs, Nathalie ? Sur le site du CNOSF ? Club France.
Non. C'est un site dédié, clubfrance2024.fr.
Parfait. Merci beaucoup, Nathalie Péchala.
Et d'ailleurs, si vous voulez être volontaire, vous pouvez également vous rendre sur ce site pour pouvoir postuler.
Bah, c'est parfait, ça. Merci d'avoir lancé l'appel. Merci, Nathalie Péchala. À bientôt.
Merci. Bonne soirée. À bientôt.
Dans le reste de l'actualité sportive de ce dimanche, Quentin, il y a du tennis.
Oui, avec le Masters 1000 de Madrid qui se poursuit et... il n'y a plus de Français, cette phrase qui résonne dans nos têtes si souvent. Hugo Humbert, dernier représentant chez les hommes, a perdu contre Jan-Lennard Struff, l'homme en forme sur terre cette année, vainqueur du tournoi de Munich la semaine dernière, défaite en 2-7, 6-5, 6-4 d'Hugo Humbert. Et Caroline Garcia a également perdu sèchement 6-3, 6-2 contre l'italienne Paolini, tête de série numéro 12.
En moto GP, Francesco Bagnaia s'impose dans le Grand Prix d'Espagne.
Oui, l'italien remporte la deuxième victoire de la saison pour lui. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir Quentin.
Le champion du monde en titre a profité de la chute de Jorge Martin pour faire la très bonne opération de ce week-end.
Exactement, puisqu'à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne, eh bien, l'Italien revient à 17 points de Jorge Martin, le Madrilène qui avait pourtant remporté la course sprint hier, qui semblait cet après-midi parti pour continuer l'écart au championnat, puisqu'il était en tête de ce Grand Prix jusqu'à 15 tours de l'arrivée, le moment où dans le virage 6, il a perdu la devant de sa Ducati. Résultat, Pecco Bagnaia, qui était parti en 7e position et qui était à la lutte pour la première place, eh bien, le double champion du monde a tenu bon dans un final mais absolument grandiose avec Marc Marquez, duel de géants, d'équilibriste et au passage du drapeau à damier, eh bien, c'est bien Pecco Bagnaia qui l'emporte donc devant Marc Marquez, Marco Bezzecchi, hat-trick Ducati sur ce Grand Prix d'Espagne.
Fabio Quartararo a pris la 15e place. Le prochain rendez-vous, c'est sur le circuit Bugatti du Mans, Frédéric Veil, et donc ça va être une belle fête.
Oui, belle fête, puisque ce Grand Prix de France, c'est dans 15 jours et il devrait battre le record d'affluence qui était l'an passé de 110 000 spectateurs. Et bien sûr, nous y serons en terre Mancelle.
Allez, merci Frédéric Veil. Vous restez avec nous. Après la pause, nous parlons des 30 ans de la mort d'Ayrton Senna avec notre invité Lionel Froissart, dont le roman L'icône immolée vient de paraître et est déjà d'ailleurs réimprimé. À tout de suite.
RTL. On refait le sport.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle avec Fanny Richard, directrice de l'intervention sociale et de l'accès aux soins de l'assurance maladie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à qui est destinée la complémentaire santé solidaire ?
Eh bien, à toute personne ayant des revenus modestes. Mmh. En fonction de vos ressources, elle ne vous coûte rien ou jusqu'à 30 euros maximum par mois selon votre âge. Mmh. Avec la complémentaire santé solidaire, vous ne payez plus chez les médecins généralistes, les spécialistes, à l'hôpital et dans la plupart des cas, les lunettes, les prothèses dentaires et les prothèses auditives.
Très bien, mais alors comment savoir si on y a droit ?
En utilisant le simulateur d'Amélie.fr. Il ne faut vraiment pas hésiter à vérifier car vous êtes encore 3 millions de personnes à y avoir droit sans le savoir.
Merci.
Pour vérifier votre droit à la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur Amélie.fr.
À Lille Entrepote, c'est tout un programme. Passage par la Grand Place, détour dans le Vieux Lille, sa citadelle, ses fricadelles, ses frites, son Welsh. Là, votre pote vous dit...
C'est une tuerie ce Welsh.
Mais ce que vous lui dites pas, c'est que tout ça, c'est grâce à Anthony, directeur de l'hôtel Kyriad Lille, qui vous a partagé ses adresses pour un séjour au top. Avec l'offre évasion, des deux nuits réservées, Kyriad vous offre 15% de réduction dans l'un de nos 250 hôtels en France. Pour encore plus de découvertes, conditions et réservations sur kyriad.com.
RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
Il s'est passé un accident très grave au Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola. Ayrton Senna, qui était en tête, est sorti de la piste. Il est grièvement blessé.
La mort d'Ayrton Senna à 34 ans sur le circuit d'Imola. Il est mort, il s'est éteint il y a quelques instants à Bologne. Et la nouvelle est officielle.
Oui, tout le monde ici est anéanti. Et malheureusement, cette nouvelle était attendue d'une minute à l'autre. Mais il y a un enchaînement incroyable de fatalités s'est abattu aujourd'hui sur Imola.
C'était il y a malheureusement 30 ans, le 1er mai 1994, Ayrton Senna trouvait la mort dans le virage de Tamburello, au 6e tour du Grand Prix de Saint-Marin. Un drame que nous fait revivre Lionel Froissart, notre invité, à travers son livre « L'icône immolée » aux éditions En Exergue. Rebonsoir Lionel.
Bonsoir.
Merci encore d'avoir accepté notre invitation. « L'icône immolée », c'est un livre à part, car vous l'avez écrit à la première personne, et c'est Ayrton Senna qui s'exprime. Pourquoi vous l'avoir écrit ainsi ?
D'accord, l'idée était un petit peu gonflée, je conçois, mais j'avais déjà écrit d'autres livres sur Ayrton Senna, une biographie, puis en 2004, Croisement d'une vie, qui parlait de 60 personnages qui avaient justement croisé la trajectoire d'Ayrton, et je ne voulais pas refaire quelque chose comme ça, ou même en me posant en simple observateur de ce week-end du 1er mai, où j'étais évidemment, et donc... Avec José Carlin Pérez, qui est responsable de cette édition, des éditions En Exergue et de cette collection La Nuit d'avant, je me suis dit qu'il fallait oser quelque chose de différent. Donc, je me suis autorisé le jeu pour me mettre dans la peau d'Ayrton Senna. Et je le dis souvent, je l'aurais fait avec aucun autre pilote.
Mais vous le connaissiez particulièrement bien. Vous avez, en quelque sorte, le droit de le faire parce que vous étiez assez proche.
Je me suis donné le droit, en tous les cas, et je le connaissais depuis 78.
C'est assez fort, comme livre. Ouais. Je le dis aux auditeurs, préparez-vous à de l'émotion.
Merci. Mais je le connaissais, oui, depuis 78 et jusqu'en 94, on s'est quasiment pas quitté. En tous les cas, j'ai suivi vraiment toute sa carrière de très près. Et pour l'avoir observé, et évidemment, avoir beaucoup parlé avec lui, avoir beaucoup échangé, je comprenais vraiment sa façon d'aborder la course automobile, son implication, ses exigences, son côté parfois insupportable, mais aussi son côté tellement attirant. Il était dans la vie d'une simplicité, d'une générosité qui était... Et puis, ce qui m'a beaucoup, qui me touchait beaucoup chez lui aussi, c'était sa capacité à s'émouvoir, à être ému. C'était incroyable parce qu'il était d'une telle dureté au volant de sa voiture. Moi, je dis toujours, il faisait pas de prisonnier. Et en dehors de ça, on l'a vu souvent pleurer. C'est tout à fait exceptionnel pour un sportif de haut niveau dans un sport aussi dur, où justement le danger est omniprésent, de montrer à ce point-là ses émotions, d'être capable de pleurer en évoquant quelque chose qui l'avait contrarié. Moi, ça me touchait aussi beaucoup.
Alors, c'était un week-end particulier, celui d'Imola. Le vendredi, il y a l'accident de Rubens Barrichello. Mmh. Le lendemain, surtout, il y a l'Autrichien
Ratzenberger
qui se tue lors de la séance de qualification. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il n'a plus envie de courir le Grand Prix, Ayrton Senna.
Alors,
Il est partagé, en tout
cas. Voilà, il se pose la question, est-ce que tout ça est bien nécessaire et bien utile ? Tout le monde a vu, c'est assez rare, il n'y avait pas eu d'accident mortel depuis 1982 et l'accident de Gilles Villeneuve à Zolder. Et là, il est témoin de cet accident, comme nous tous, quand je dis nous tous, c'est et les journalistes, les spectateurs...
Et les téléspectateurs, c'est tous où on était à ce moment-là.
Et donc, il se pose des questions, évidemment. Il en parle à des proches, il en parle avec Frank Williams. La discussion, elle dure jusqu'à tard dans la soirée, finalement.
C'est fou que le Grand Prix n'ait pas été reporté, finalement.
Alors, sans rentrer dans les détails, Ratzenberger est mort sur le coup. Et la loi italienne, dans ce cas-là, s'ils avaient déclaré effectivement Ratzenberger mort sur le circuit aurait été fermé pour permettre une enquête immédiate. Mais vous imaginez bien que les responsables commerciaux de la Formule 1 de l'époque, dont Bernie Ecclestone...
Il était déjà gonflé à l'époque.
Oui, se sont bien gardés d'annoncer la mort de Ratzenberger sur le circuit. Le Grand Prix a eu lieu avec toutes les conséquences que l'on sait. Mais bon, comme dans beaucoup de cas, on ne peut pas refaire l'histoire, voilà. Ça s'est passé comme ça, et de la même façon que lors de l'accident d'Ayrton, il a été tué par une pièce de suspension qui a transpercé son casque. Si elle passait 5 cm à droite, il n'avait rien, il n'avait absolument rien d'autre, sauf que cette pièce de carbone a été mortelle. Il avait un petit hématome en bas du dos, sans doute à cause des ceintures, mais voilà, bon, voilà, on ne peut pas refaire ça, c'est le destin est comme ça.
Alors, il prend quand même le départ de la course, et si vous le permettez, j'ai demandé à Luc Ogier, qui était sur l'antenne de RTL ce jour-là, d'être avec nous ce soir. Bonsoir Luc.
Oui, bonsoir.
Quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de RTL. Luc, même si c'est voilà, pour parler du décès d'Ayrton Senna, l'ambiance, elle était spéciale dans les paddocks ce jour-là, hein ?
Ben, c'était très lourd par les événements qui s'étaient produits la veille et l'avant-veille. Et puis au départ, il y a eu un accrochage, une neutralisation. La course est donc partie avec 5 tours de retard. Derrière, une voiture de sécurité qui était beaucoup trop lente. On se rendait compte que les pneus ne montaient pas en température et que le départ serait un peu critique. Et puis ce qu'on a vu lors du premier tour au passage de Tamburello, alors que Senna était en tête, c'est qu'il a quitté la route d'une manière complètement inhabituelle, incompréhensible. Donc c'était manifestement une rupture mécanique qui l'empêchait de contrôler sa voiture. Et cette voiture, elle a décéléré de 300 à 200 km/h en une seconde, parce que Senna n'avait qu'une ressource, c'était d'écraser les freins, ce qu'il a fait. Et là, elle a percuté un mur, mais avec une décélération très, très violente. Lionel parlait de ce bras de suspension qui avait traversé le casque, mais ce dont on se doutait au moment du choc, même sans savoir ça, c'est que la décélération était bien peut-être au-delà de ce qu'un organisme peut encaisser.
C'est ce que j'allais vous demander, Luc. Quand vous commentez à ce moment-là sur l'antenne d'RTL, vous avez compris que c'était très très grave ?
Que c'est très très grave, oui. Parce que d'une part, que c'était une rupture de pièces sur une voiture en laquelle Ayrton Senna, depuis le début de la saison, n'avait pas confiance. Mmh. Il était mal à l'aise dans cette voiture, elle n'était pas encore au point. Il travaillait beaucoup, mais elle était très piégeuse, disons. Donc, c'était la récidive après deux Grands Prix où il avait déjà connu des ennuis. Là, on s'est rendu compte que c'était très grave parce que c'était une rupture mécanique et que le choc contre le mur de Tamburello était vraiment très, très, très violent.
Merci beaucoup, Luc Ogier. C'était un plaisir de vous retrouver sur l'antenne de RTL. Lionel Froissart, c'est vrai que ce moment-là, Frédéric Veil est aussi toujours en ligne avec nous. Il vient de sortir un podcast sur les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna. Il a laissé une trace indélébile chez tout le monde.
Oui, c'est assez incroyable. C'est peut-être ce dont je m'explique le moins au sujet d'Ayrton Senna, même si moi je l'aimais beaucoup et je l'admirais beaucoup, mais au-delà du pilote qu'il a été et du palmarès qu'il a laissé, qui est un beau palmarès, mais qui n'est pas le plus grand palmarès. Mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que sa personnalité a touché beaucoup de gens par les émotions, par tout ce qu'il arrivait à transmettre au public. Je raconte souvent cette anecdote quand il faisait une conférence de presse pour expliquer une pole position, ce qu'il a fait 65 fois, ou une victoire, ce qu'il a fait 41 fois. Il expliquait tellement bien ce qui se passait dans la voiture qu'à la fin, d'habitude, le jeu, c'est bon.
D'aller voir les techniciens.
Des questions dans la salle. Mais on était un peu. On n'a plus grand chose. On sait tout. Et je trouve que dans ce sport, on parlait tout à l'heure de tennis, tout le monde peut prendre une raquette, jouer. On parle du foot, tout le monde peut jouer voilà. La plupart des sports sont accessibles au commun des mortels et on a une petite idée de ce que ça peut être. La Formule 1 a ça de particulier, c'est que c'est absolument impossible d'imaginer même ce que ressentent les pilotes. Et quand un pilote est capable de vous transmettre à ce point ses émotions, c'est vraiment quelque chose de formidable et Ayrton Senna était capable de ça.
Erwan Lestron nous a rejoint. Bonsoir Erwan.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le directeur conseil d'Odoxa et le baromètre pour Winamax et RTL de la semaine, il est consacré à Senna. 30 ans après sa mort, sa disparition est encore très très présente dans les esprits.
Oui, tout à fait, justement. C'est vraiment des résultats qui montrent l'importance de l'électrochoc qu'a provoqué sa mort, mais même dans la population française. 55% des Français nous disent qu'ils se souviennent bien de cet accident, plus de la moitié de la population, et même 78% des 50 ans et plus. 24% des Français nous disent « j'étais trop jeune à l'époque, mais j'en ai entendu parler », et même 39% des moins de 35 ans qui l'ont vécu par procuration, ce qui fait qu'au global, on est à 79% des Français, 8 Français sur 10, qui se souviennent ou qui ont entendu parler de l'accident d'Ayrton Senna en 94. C'était vraiment une onde de choc.
Vous êtes d'ailleurs penché sur sa rivalité avec Alain Prost, Erwan.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on ne parle pas d'Ayrton Senna en France sans parler d'Alain Prost. Pour 76% des amateurs de Formule 1, c'est la plus grande rivalité de l'histoire de la Formule 1. Ils placent même ça devant Verstappen-Hamilton, mais aussi par exemple Villeneuve-Schumacher. Et ils placent même ça au rang des plus grandes rivalités sportives. Pour 69% des amateurs de Formule 1, Senna-Prost, c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport.
Lionel Froissart, dans votre livre L'Icône Immolée, vous consacrez d'ailleurs un des chapitres à leur relation à Senna et Prost. Et moi, ce que j'adore, c'est la dernière discussion avant la course, ce jour-là. Où est-ce que vous êtes allé chercher les textes? Vous avez discuté avec Prost?
Bien sûr. Je connais bien Alain. Et paradoxalement, même à l'époque, j'avais vraiment aucun problème relationnel
entre
Ayrton et Alain. Donc, l'entourage, parfois, c'était un petit peu plus compliqué, mais entre les deux, il n'y avait vraiment aucun souci. On parle là d'une des plus grandes rivalités dans la Formule 1, les concernant, ce qui est vrai parce qu'ils étaient pendant 2 ans dans la même voiture. Oui. Et la référence absolue en Formule 1, on le sait, c'est son coéquipier. Et on aimerait voir quelqu'un d'aussi fort que Max Verstappen dans l'autre Red Bull. C'est pas le cas. Donc, à chaque fois, on veut voir ça. Un duel, on dit souvent, ouais, c'est toujours le même qui gagne. S'il y a un duel, ça nous suffit. C'est rarement beaucoup plus hein, pour la conquête du titre mondial. Et là, on avait les deux meilleurs pilotes du monde, un qui excellait en vitesse pure, l'autre qui excellait en stratégie, un qui était très fort en réglage châssis, Senna, un qui était très fort en réglage moteur, Ayrton. Enfin, voilà, c'était le duel parfait, tant sur le plan technique, leur personnalité était très différente, avec le même but, être le meilleur, gagner le Grand Prix.
Et je conseille aux auditeurs d'acheter le livre pour lire cette conversation, la toute dernière entre deux. Erwan Lestron, pour terminer le sondage Odoxa, les deux dernières questions du baromètre pour Winamax et RTL concernaient la sécurité.
Oui, et c'est vrai que cette disparition d'Ayrton Senna, ça a été un électrochoc, mais ça a été aussi une prise de conscience. On a demandé aux Français, à propos de la mort d'Ayrton Senna, d'après ce que vous en savez, diriez-vous que cet événement a renforcé la sécurité des pilotes de Formule 1? 90% des amateurs de Formule 1 nous disent oui. On peut citer aussi les mots d'un ancien président de la Fédération Internationale de l'Automobile qui avait dit « le week-end d'Imola était un catalyseur de changement ». D'ailleurs, quand on a demandé aux amateurs de Formule 1, parmi ces évolutions qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années, lesquelles ont selon vous été les plus utiles pour la sécurité des pilotes de Formule 1, celui qui arrive en premier, c'est le système Head and Neck Support qui protège le cou et la tête, 45% de citations. Les normes plus strictes pour le crash test des véhicules. En troisième position, le retravail des circuits, des dégagements plus importants, des chicanes en ligne droite, de l'asphalte abrasif, des barrières absorbantes. Et enfin, 31%, le halo et deux autres items qui ont été fortement cités aussi par les amateurs de F1, les cockpits en carbone et l'équipement textile Inifugé, 29% de mention.
Merci beaucoup Erwan Lestron. Lionel Froissart, Frédéric Veil, la sécurité, c'était une obsession chez Senna?
Oui. Contrairement à ce que l'on a beaucoup dit à l'époque, il était très agressif dans son pilotage. Et évidemment, vous savez bien que la Formule 1, comme tous les sports de haut niveau, c'est aussi une guerre psychologique. Donc certains de ses adversaires, Alain Prost l'a fait aussi, essayaient de l'affaiblir en disant que peut-être la sécurité ou sa prise de risque était anormale. Ce qui n'était pas du tout le cas. C'est vrai qu'il était à 100% quand il était au volant. Mais en dehors de ça, il a toujours été très très préoccupé de la sécurité, d'abord parce qu'il a été victime de 3 accidents qui sont passés inaperçus parce qu'ils se sont produits en cours d'essai privé qu'on n'a pas vu, mais qui étaient très dangereux. Et je me souviens qu'il m'a expliqué un jour, on parlait de la sécurité chez lui au Brésil, et il m'a raconté un de ses accidents à Hockenheim à bord d'une de ses Formule 1, et il s'est retrouvé à 5 mètres, mais peut-être plus de hauteur, et en retombant vers le sol, il s'est dit, là, on y est. En pensant qu'il allait se faire mal, peut-être se tuer. Mais au-delà de ça, il était évidemment conscient que la Formule 1, le sport automobile, est un sport extrêmement dangereux et ça ne l'amusait pas du tout, l'idée de pouvoir se faire mal, évidemment de se tuer au volant d'une F1. C'était pas un risque tout, c'était pas un inconscient, et ceux qui ignorent le danger, prennent des risques qui, en général, sont fatals.
Frédéric Veil.
Oui, et puis il voulait également faire cette réunion avec Alain Prost, évidemment qu'ils n'ont jamais fait, il voulait la faire à Monaco. J'étais encore hier au téléphone avec Eric Comas, hein, qui était au départ de ce Grand Prix, qui me disait que le dimanche matin au briefing, il était assis à côté d'Ayrton Senna, que celui-ci, il insistait, il voulait absolument qu'il provoque cette réunion. Cette réunion de pilotes pour améliorer la sécurité, c'était vraiment quelque chose, comme le disait Lionel à l'instant, quelque chose de vraiment très très présent chez Ayrton.
Merci beaucoup Frédéric Veil. Je rappelle que votre podcast sur le récit du jour de la mort de Senna est en ligne et il est fabuleux, hein, sur le site et l'appli.
Avec Lionel Froissart.
Lionel Froissart avec une interview de Paul Belmondo assez émouvante. C'est sur le site et l'appli de RTL et toutes les plateformes partenaires. Merci beaucoup Lionel Froissart, ça passe toujours trop vite. Je rappelle le titre de votre roman, L'icône immolée, c'est aux éditions En Exergue, achetez-le. Voilà, beaucoup d'émotions aussi, puis vous apprendrez plein de choses si vous n'y connaissez rien. Merci Quentin, merci à Spencer et Léa pour la réalisation. Dans un instant, place au football. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir Isabelle, on a une soirée de dingue avec 5-4 de Brest à Rennes, Lyon qui est en train de mener contre Monaco, Marseille-Lens qui nous attend, c'est absolument fou.
Le score d'hier à la mi-temps, Quentin, de Lyon.